Certains comportements font l'unanimité dans pratiquement toutes les cultures. Par exemple, on ne dit pas de mal de quelqu'un qui est équitable, maître de lui ou hospitalier. Or, il se trouve que toutes les qualités humaines qui font l'unanimité sont également considérées comme bonnes dans les Saintes Écritures. Je continue à lire dans le premier chapitre de l'Épître de Paul à Tite. Que le dirigeant d'une église soit hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, pieux et maître de lui-même. Verset 8. L'apôtre Paul a d'abord dressé une liste de ce qu'un responsable d'église ne doit pas être ou ne doit pas faire. Maintenant, il passe en revue les caractéristiques positives qu'il devrait manifester. La première est l'hospitalité. Ce mot composé veut dire « affection pour l'étranger ». Quelqu'un d'hospitalier vient en aide à celui qui est dans le besoin, qu'il soit ami, inconnu, croyant ou pas. Jésus a même enseigné qu'il était préférable d'inviter ceux qui ne sont pas en mesure de retourner la faveur. Deuxièmement, le dirigeant doit affectionner tout ce qui est bon, bien et vertueux. En troisième lieu, il doit être réfléchi, prudent et avisé. Il a de la retenue, du discernement, du bon sens et un jugement correct. Ensuite, il est juste, un mot très fréquent dans le Nouveau Testament et qui ici signifie équitable. Cette qualité est indispensable chez quelqu'un qui occupe un poste à responsabilité s'il veut être crédible. Cinquièmement, il est pieux, c'est-à-dire qu'il conforme sa vie à la volonté de Dieu telle qu'il nous la révèle dans sa parole. La sixième caractéristique d'un dirigeant est la maîtrise de soi, et cela dans tous les domaines de sa vie, même dans sa vie privée, quand il n'est pas sous le feu des projecteurs. Je continue maintenant le texte. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Verset 9. Jusqu'à présent, toutes les qualifications que Paul a mentionnées mettaient l'accent sur le caractère spirituel et le comportement d'un dirigeant fidèle sur ce qu'il doit être. Maintenant, il va décrire son ministère, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire prêcher, enseigner, défendre et préserver la vérité de la parole de Dieu. Celui qui enseigne s'adresse à l'intelligence des auditeurs. Il explique les Écritures afin qu'elles soient comprises. Le prédicateur, lui, s'adresse à la volonté de ceux qui l'écoutent. Il leur proclame la vérité de Dieu afin de les motiver à agir. Ces deux formes de communication vont généralement de pair et font partie des dons spirituels que le Saint-Esprit accorde selon sa volonté. Cependant, l'exercice de ces dons exige de la maturité spirituelle et de la pratique. Il ne faut donc pas demander à un jeune converti un soir de donner son témoignage et le lendemain ou presque de prêcher. Non seulement ça ne fait pas sérieux, mais selon l'apôtre Paul, c'est également l'exposer aux attaques du diable. Ensuite, le dirigeant doit être fidèlement attaché à la parole certaine, c'est-à-dire qu'il adhère sans réserve à la véracité des Écritures. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ses qualifications ne dépendent pas de ses talents naturels, de son éducation, de son bon sens ou de sa sagesse, mais de ses dons spirituels et de sa connaissance et compréhension des Écritures. De plus, l'enseignement de la parole de Dieu doit faire partie intégrante de ses pensées et de sa façon de vivre. Alors, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Le mot pour encourager veut aussi dire exhorter, défendre. C'est aussi l'un des titres et l'une des caractéristiques du Saint-Esprit selon l'enseignement de Jésus-Christ. Le dirigeant doit pouvoir défendre l'enseignement authentique. Ce mot a donné hygiène en français. Il s'agit donc d'un enseignement qui est bon, utile et qui contribue à la santé spirituelle des membres de l'Église. Le dirigeant pasteur est convaincu que les Écritures sont la seule source de vérité, que leur obéir n'est pas une option, mais une obligation. Il proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par son enseignement, avec une patience inlassable. Fin de citation. Le dirigeant doit également réfuter les contradicteurs, littéralement parler contre ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contredisent les Écritures. Ces gens sont particulièrement dangereux quand ils sortent des rangs chrétiens et encore davantage s'ils occupent une position d'autorité dans l'Église, car alors, non seulement ils se disent croyants sans l'être, mais en plus, ils exercent une influence néfaste sur ceux qui les écoutent. Je continue le texte. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ces séducteurs tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Verset 10. Parce que les détracteurs étaient nombreux, il était impératif que des dirigeants de valeur se lèvent et défendent la foi. Ces contradicteurs hérétiques étaient rebelles à la vérité en campagne contre les préceptes moraux et spirituels de la parole de Dieu dont ils contestent l'autorité. Ce sont des séducteurs qui trompent le monde par des discours creux. Ils habillent leurs mensonges d'une terminologie religieuse et par leurs paroles doucereuses, ils savent séduire, captiver et persuader, mais ce n'est que du bruit qui ne veut rien dire. Cette sorte de gens a toujours un certain succès parce que nous vivons un temps où, comme le dit si bien l'apôtre Paul, les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Comme la plupart des croyants du premier siècle étaient juifs, les églises étaient constamment sous le feu de faux prophètes issus du judaïsme. On les appelait judaïsants parce qu'ils essayaient de forcer les croyants à suivre des rites issus de la loi de Moïse ou de la tradition rabbinique. Or, nous savons de sources historiques et chrétiennes que beaucoup de juifs habitaient sur l'île de Crète. Il n'est donc pas étonnant que des judaïsants avaient noyauté les églises et harcelaient les croyants. Une quinzaine d'années plus tôt, le concile de Jérusalem auquel Paul avait assisté s'était opposé à certains pharisiens qui soutenaient qu'il fallait absolument circoncire les croyants non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Mais leur influence néfaste sur les églises continua encore pendant de longues années. Voilà pourquoi Paul écrit « Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes ». Verset 11. Il semble que ces hérétiques ne semaient pas leur poison dans le culte du dimanche, mais dans les maisons, une famille à la fois, loin des croyants ayant la maturité spirituelle de s'opposer à eux. À Timothée, Paul écrit « Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots, elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Évite les discours creux et contraires à la foi. » Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. Et concernant les épîtres de Paul, l'apôtre Pierre dit « Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. » Fin de citation. Si certains judaïsants enseignaient le légalisme pur et dur par conviction ou fanatisme, beaucoup d'entre eux avaient un mobile beaucoup plus terre-à-terre. Ils cherchaient simplement à se remplir les poches. Parlant de ces hérétiques, Paul dit à Timothée, « Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. » Dans les exhortations qu'il adresse aux responsables d'Église, l'apôtre Pierre écrit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Je continue le texte. Un Crétois, qu'il considère comme un prophète, a dit « Les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Voilà un jugement qui est bien vrai. Versets 12 et 13. Paul n'est pas tendre avec les Crétois en tant que peuple. Ce prophète s'appelle Épiménide. C'était un philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, originaire de Crète et considéré comme l'un des sept grands sages de la Grèce antique. Au dire de Paul, le fond de la pensée d'Épiménide était exact. Non seulement les habitants de l'île étaient des menteurs invétérés, mais ils se comportaient aussi comme des animaux sauvages ou des rapaces, dans le sens qu'ils vivaient au niveau de leurs pulsions primaires, de leurs appétits et de leurs passions. Ils n'aimaient pas travailler, mais par contre, c'étaient des fêtards accomplis. Au regard de ces caractéristiques, la perversité des hérétiques qui sévissaient dans l'île n'était guère surprenante. Je continue le texte. C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine. Verset 13. Le mot pour sévèrement signifie trancher avec force. Comme ces faux prophètes représentaient un réel danger pour les églises, ils devaient être corrigés et contrés sans ménagement afin que, si possible, ils reconnaissent leurs erreurs sans repente et viennent à la foi. Je continue. Et qu'ils ne s'attachent pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Verset 14. C'est en termes quasi identiques que Paul dit à Timothée qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables, des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi, mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. » Fin de citation. Paul ne précise pas les spéculations juives que les faux prophètes répandaient dans les églises de Crète. Il n'est pas spécifique, à dessein, afin de ne pas laisser une porte ouverte à une hérésie qu'il n'aurait pas mentionnée. On sait cependant que cela faisait des siècles que les chefs religieux juifs développaient la tradition des anciens qui est consignée dans le Talmud et que parallèlement, il existait des tas de théories mystiques fumeuses qui, par exemple, attribuaient une valeur numérique à chaque consonne de l'alphabet hébreu. Si on ajoute à ce mélo-mélo une poignée de philosophie grecque et une pincée de mythologie, le compte est bon et on arrive facilement aux spéculations juives dont parle l'apôtre Paul. Un jour, un groupe de pharisiens et d'interprètes de la loi de Moïse a demandé à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Il leur a répondu « Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur il est bien éloigné de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Fin de citation. Jésus s'est fortement opposé aux chefs religieux de son époque parce qu'ils rendaient caduque la parole de Dieu en y ajoutant leur tradition. Les chefs religieux, et les pharisiens en particulier, avaient fabriqué un système légaliste constitué de règles très contraignantes et auxquelles il fallait obéir afin de, soi-disant, plaire à Dieu. L'apôtre Paul était pharisien d'origine, mais il avait délaissé ses fausses croyances au profit de la grâce. Aux Éphésiens, il écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. » C'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Non seulement on obtient la vie éternelle par grâce, mais le croyant est appelé à vivre à un niveau de moralité et de sainteté bien plus élevé que ce que la loi de Moïse enseigne. Il n'y a qu'à lire le sermon sur la montagne pour s'en convaincre. Ceci dit, et bien que la loi de Moïse fût donnée d'abord à la nation d'Israël, il serait bien nécessaire et même urgent que la partie morale de la dite loi soit intégrée à une constitution mondiale, car elle concerne tous les hommes et pas seulement les juifs. En effet, quand Dieu dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Ces commandements, s'ils étaient appliqués et leur violation sanctionnée immédiatement, que de problèmes nous n'aurions plus. Alors que j'écris ces lignes, je suis scandalisé parce que je pense à toutes les injustices criantes qui, sous des prétextes bidons, sont allègrement et nonchalamment acceptées par nos démocraties corrompues. La loi morale de Dieu était le message qu'Israël aurait dû communiquer à ses voisins, éventuellement au monde entier, mais le peuple choisi a totalement failli à sa tâche. Je continue le texte. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leur conscience sont salies. Verset 15. Le légalisme est dangereux parce que c'est une tromperie qui enseigne qu'une personne peut se rendre acceptable en observant des rites et traditions considérés comme bons et en évitant certains comportements qui sont déclarés mauvais. Selon cette croyance, par mes actions, mes efforts et propres mérites, je peux plaire à Dieu. C'est l'idée de base de toutes les religions fondées sur le sacerdoce, les sacrements et les cérémonies rituelles. C'était aussi l'hérésie que les judaïsants répandaient dans les églises et que Paul combattait avec acharnement. Aux Romains et en parlant des Juifs, l'apôtre écrit « En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare juste. Depuis la nuit des temps, depuis toujours, c'est par la foi que les hommes deviennent justes devant Dieu. Regarder dans une certaine direction, s'agenouiller, allumer des cierges, brûler de l'encens, s'asperger d'eau bénite, recevoir les sacrements, réciter des prières, faire des expériences mystiques, recevoir des visions et même être baptisé ou participer à la communion du pain et du vin, aucun de ces actes ne peut procurer la vie éternelle. Au contraire, mettre sa confiance en un quelconque rite est un obstacle à une foi personnelle en Jésus-Christ qui seul a le pouvoir de sauver. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour leur salut ont été purifiés de leurs fautes et alors, peu importe s'ils mangent du serpent à sonnette ou des grenouilles, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Pour les non-croyants, quoi qu'ils fassent, ils restent sous la condamnation de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés. Jésus a dit « Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Un régime végétarien fera peut-être de vous un bon bouddhiste, mais cela ne modifiera en rien votre culpabilité devant Dieu. » Dans une autre épître, Paul écrit « Vous êtes mort avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde ?» Vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela » Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines. » Fin de citation. Je finis le premier chapitre de l'épître de Paul à Tite. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Verset 16. Il est toujours question des judaïsants. Paul associe l'erreur théologique à la perversion morale. Les faux prophètes faisaient de belles professions de foi, mais leurs actions contredisaient leurs paroles. Ceux qui sont attachés aux apparences placent leur confiance dans leurs bonnes actions et par là se croient souvent supérieurs aux autres, alors qu'en réalité ce sont des coquilles vides. C'était bien là le grand problème des pharisiens, et Jésus l'a bien montré du doigt, mais comme ils refusaient de l'écouter, il a proféré contre eux une série de malédictions qui donnent froid dans le dos. Non seulement les hérétiques sont orgueilleux, mais aussi détestables, un mot particulièrement violent qui peut aussi se traduire par abomination, et que Jésus a utilisé pour qualifier l'acte abject qu'à la fin des temps l'Antéchrist commettra dans le lieu très saint du temple reconstruit. La rébellion est l'état naturel de l'homme non régénéré, et comme je ne cesse de le répéter, ce ne sont pas des rites et des cérémonies ou n'importe quelle pratique humaine, aussi noble soit-elle, qui pourront changer le cœur d'une personne. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de transformer quelqu'un et d'en faire une nouvelle création. Que ce soit les hérétiques juifs ou le commun des mortels, nous avons tous besoin de naître d'en haut à la vie nouvelle et éternelle.